Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Démenti, vous écoutez le Club Démenti. Je suis ce soir en merveilleuse compagnie, je suis en compagnie de Maps. Bonjour Maps.
Bonne soirée.
Oui, bonsoir, on est rendu là. Et Karine, pas de mon coin lecture, Karine la bouquineuse, bonjour. J'ai trop d'amis qui s'appellent Karine. Rebienvenue Karine, ça me fait plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler du livre Rue du Plessis. C'est un livre écrit par Jean-Philippe Plot et c'est aux éditions Luxe. Ça, ce livre-là, il y a un parcours quand même extraordinaire. Jean-Philippe Plot avait déjà publié un livre l'année dernière qui a complètement passé sous silence. Alors, ce livre-là est arrivé et je pense que personne n'en attendait grand-chose. Nous, à la librairie, on n'en avait pas reçu. Bon, on en avait reçu une quantité décente, là, 8, c'est comme bien, tu sais, c'est pas 1. Donc, on s'attendait à en vendre quelques-uns, mais on s'attendait pas au succès que ça a eu. Donc, très rapidement, les 8 copies qu'on a eues, on les a vendues très rapidement. Et je pense que ça a été le cas dans toutes les librairies parce qu'il a été en réimpression. Et alors qu'il était en réimpression, ils se sont rendus compte que la demande était encore plus grande. Donc, avant même qu'on reçoive les copies de cette réimpression-là, il était déjà en réimpression une troisième fois. Donc, c'est ça, c'est un gros succès. Et là, malheureusement, j'ai plus mes contacts, mais il est possible qu'il y ait eu d'autres, une autre réimpression depuis, parce qu'il me semble qu'il en manquait pendant un bout de temps aussi, récemment. Et donc, c'est ça. Donc, méga succès, pas sur les médias sociaux, parce que je l'ai vu très peu vu passer, mais succès librairie, succès papier, donc. Et voilà, donc j'étais vraiment curieux de lire ça. Il y a un grand engouement pour ça. Et le sujet est vraiment... il est vraiment d'actualité. Je pense qu'on parle beaucoup de ce sujet-là en ce moment, c'est-à-dire le sujet de... transfuge de classe. Donc, ce qui se passe dans ce livre-là, c'est que Jean-François Plot va nous raconter, différentes anecdotes qui vont de sa jeunesse à sa vie d'adulte, qui vont raconter son enfance dans un milieu très pauvre, dans une famille très peu scolarisée. Et puis, comment ça a eu un impact sur lui, sur sa personnalité. Comment il s'est sorti de cette situation-là, parce qu'il a réussi à avoir des études supérieures, il a fait des études supérieures, il a réussi à se sortir de cette classe-là, donc, et puis, c'est ça, on va le retrouver aussi adulte, et il va parler de comment il se sent, il parle souvent il se compare à un immigrant de l'intérieur, donc il n'est jamais vraiment à sa place, et je trouvais ça super intéressant, et j'avais très hâte d'en parler avec vous. Comme à l'habitude, je vous avertis que c'est un club de lecture, on va parler du livre de fond en comble, quoique ici, on peut difficilement spoiler quoi que ce soit, là, c'est juste une série d'anecdotes, vraiment. Moi, j'ai vraiment envie d'entendre Karine d'abord. Est-ce que je t'avais sous le spot? Es-tu prête?
Oui, je suis prête.
Excellent. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que tu as pensé.
Moi, c'était un livre qui m'a vraiment prise par surprise. Vraiment, vraiment beaucoup. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis, d'un côté, avant d'aller en traduction, j'étudiais en sociologie. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de concepts qui sont abordés. Puis, que soit que je connaissais ou qui m'intéressait vraiment beaucoup à cause de ça. Puis de l'autre côté, ça a été une espèce de vraiment claque en pleine face, ce livre-là. Parce que la réalité qu'il décrit, c'est pas ma famille immédiate, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi. C'est des choses qu'il raconte sur, genre, des personnes adultes qui croient que c'est de son ancien milieu. Je reconnais des personnes de mon entourage, des cousins, des gens, parce que c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher, parce que ça m'a ramené à des choses très, très personnelles, parce que, c'est comme, mon père est à l'université, Ma mère avait fait un secondaire 5, puis c'était tout. Mais le reste, la famille, du coup, partant quand du côté de ma mère, c'était très... J'ai un milieu ouvrier à la base, mes deux grands-pères étaient ouvriers. C'est compliqué sur ben des affaires. Fait que j'ai reconnu beaucoup de choses. Hein, c'était pas ma réalité à moi. C'est comme je disais, mon père était à l'université, ma mère a toujours eu une grande curiosité intellectuelle qu'elle nous a transmise vraiment beaucoup. Mais à cause de ça, je quittais pas toujours, moi, quand j'étais enfant, dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Parce que, tu sais, j'étais la bolée qui lisait tout le temps, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui décrit que ça m'a comme ramené à... Comme je disais, pas une temps ma réalité, mais une réalité que je connais. Fait que ça a été comme vraiment, vraiment, vraiment une claque, ce livre-là. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, parce que... Je pense que c'est le genre de monde que quand tu en fais partie, quand tu en fais en périphérie, puis tu te ramasses ensuite ailleurs, tu as l'impression que tu es la seule personne qui a vécu ça. Voir que c'est une expérience qui n'est pas un peu plus commune que ce qu'on peut s'imaginer, ça fait du bien, une certaine personne.
Oui, puis c'est vraiment d'actualité parce que. Ben, j'ai l'impression qu'on est une génération, nous, les milléniaux, on est une génération où il y en a eu beaucoup, j'ai l'impression. Mm-hmm. On a eu plus accès à peut-être la scolarité, on a peut-être plus, ou en tout cas, on a plus accès à l'information. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, donc effectivement, je t'avoue que c'est un texte qui m'a beaucoup rejoint aussi pour les mêmes raisons. Puis, ça, c'est ton avis. Comment tu l'as ressenti? Moi, j'aimerais ça savoir Maps comme ça, là, sur le dessus. en bref, comment t'as vécu cette lecture-là?
C'est tellement pas juste parce que vous êtes divulgaché mon avis déjà tous les deux. c'est ça que c'est dur de cacher nos Goodreads. En fait, je pense que je suis partie de ces livres-là en premier avec des mauvaises attentes. Dans le sens que, tu sais, c'est toi qui m'en as parlé. Deuxième publication, troisième publication. Moi, j'étais comme, je l'ai pas vu passer nulle part. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça se publie, ça s'achète, ça doit parler au monde. On comparait à Mélasse de Fantaisie qui, tu sais, malgré que ça n'a pas été comme ultra renversant pour moi l'année passée, qui était quand même un texte qui parlait d'un milieu très similaire, mais avec beaucoup d'espoir, puis, tu sais, comme... Fait, en tout cas, j'étais là-dedans, dans ma tête, je partais avec ça comme outil et comme attente avant de partir dans ce livre-là. Puis, tu sais, moi, je suis pas... j'ai pas vécu dans un milieu pauvre, mais j'ai vécu dans un milieu... dans des milieux bourgeois sans éducation, et dans le sens que comme mon père puis sa famille, il y avait des magasins de piscine. Puis donc il y avait quand même beaucoup d'argent, mais c'était pas une histoire nécessairement de scolarité. Donc c'était de père en fils, tu sais, c'est dans le temps des piscines plus là, puis ces magasins là ça en faisait de l'argent, tu sais, fait comme c'était pas nécessairement pauvre au niveau, c'était pas nécessairement riche au niveau intellectuel, mais tu sais, comme il vivait bien. Puis de l'autre côté, c'était, je te dirais, un milieu relativement moyen, tu sais, comme pas en pauvreté, mais tu sais, loin de la bourgeoisie. Mais je suis quand même née dans une petite région. Fait qu'il y a beaucoup de choses, moi, parfois, que comme en lisant son texte, je trouve qu'il allait beaucoup dans la vision de la pauvreté global. Puis moi, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait des aspects qui, un, allaient peut-être avec l'époque et pas nécessairement juste avec la pauvreté, parce qu'il y avait des choses que j'avais vues, tu sais, on se rappellera du racisme, de l'homophobie, tu sais, comme moi, là, dans ma région, s'il avait fallu que je dise à mes grands-parents que j'étais lesbienne, là, tableau, tu sais, ça aurait pas passé, puis pourtant, comme, c'est pas un milieu pauvre, là, mais, tu sais, puis comme les... C'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais beaucoup... Je disais des choses, puis j'étais comme, il manque de nuances, il manque une vision globale, ou... On dirait qu'il y avait... J'étais tout le temps comme à côté de la traque, tu sais. Je le disais, puis j'étais comme, oui, mais non. Oui, mais non. Fait que c'est ça, c'était comme ça mon ressenti tout au long, genre.
Je veux dire une chose par rapport à ça. tu parles d'époque versus la pauvreté puis tout ça, mais tu sais, mettons aujourd'hui, les choses sont peut-être différentes dans la région où tu viens, mais tu sais, comme mettons moi, mon frère, mes cousins, trouver mon père, on a toute une certaine ouverture d'esprit, on est tous allés, on est faire des études. Puis tu sais, mes cousins qui vivent, qui travaillent en construction, ça ressemble pas mal à ce qu'il décrit, là, tu sais. Fait que oui, il y a une question de classe sociale qui rentre là-dedans, là.
Ah, oh, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, comme moi j'ai des oncles qui sont ingénieurs, puis ils ont quand même ce discours-là, tu sais. Puis on dirait que c'est ça, tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui ont fait des études, mais malgré tout, c'est quand même pas, tu sais, c'est pas ça qui dénote nécessairement d'une ouverture d'esprit. Puis tu sais, ce que je voyais aussi dans l'époque, c'est justement l'histoire d'être plus éduqué que ses parents, mais éventuellement, à un certain moment, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans, fait que c'est sûr que comme toute cette génération-là, tu sais, que pas nécessairement forcément, mais il y a quand même plus de chances si eux, avant, ils n'étaient pas obligés de finir l'école que ceux qui sont obligés aient plus de... Fait que tu sais, comme c'est sûr que c'est difficile de sortir les éléments un par deux, tu sais, spécifiques, parce qu'il y a tout est un tout, puis lui, ben, il est sociologue, hein, fait que comme la société, puis... Mais c'est ça, il y a des petites choses que je sais pas, j'aurais aimé plus de nuances, j'aurais aimé moins de répétitions. Je trouve que, tu sais, chapitre après chapitre, c'était anecdotique, mais il nous amenait pas nécessairement dans des endroits différents, dans des réflexions plus loin. Fait que c'était ça. Mais c'était pas désagréable, c'était juste... pas ce à quoi je m'attendais.
Ben moi, je me situe pas mal entre vous deux. C'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là. Moi, j'ai commencé la première partie, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est mon histoire. » Je viens pas de Drummondville, je viens de Montréal, mais je viens de Montréal Centre-Sud. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un quartier... Ben, c'est pas un quartier où les gens riches vivent, on va dire. Puis, c'est ça, mes deux parents ont la mythique septième année. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, là, mais dans leur temps, il y avait sept années au primaire, puis c'est là que généralement on s'arrêtait, parce qu'après ça, il était temps d'aller travailler, puis faire de l'argent, puis ramener de l'argent à la maison. Donc c'est ça, mes deux parents ont la septième année, puis tu sais, juste là. Puis c'est ça, moi j'ai toujours eu cette curiosité intellectuelle-là, j'ai toujours voulu... J'ai toujours voulu me cultiver, je me suis toujours intéressé à la fois au monde qui m'entoure et à l'art et ce genre de choses-là qui ne sont pas prisées par ma famille. Et c'est ça, donc au départ, là, j'étais comme « Oh mon Dieu, je me reconnais, je suis là, oui, c'est mon histoire », puis il est victime d'homophobie, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est mon histoire ». Puis à la fin de la première partie, vers la fin de la première partie, il y a vraiment eu une cassure, puis je ne sais pas si je voulais en parler, mais il n'y a pas grand monde qui écoute ce podcast, je vais me permettre d'en parler. Puis ça, c'est vraiment pas de la faute de l'auteur, c'est vraiment mon expérience personnelle de lecture. Je veux que ce soit clair. À un moment donné, parce que moi, je ne savais pas c'était qui Jean-Philippe Plot, je ne l'ai jamais vu à TV. Le Spornographe, ce n'est pas vraiment une émission qui me parlait. Je ne savais pas c'était qui, je l'avais jamais vu, je savais quoi il avait l'air. Puis, à un moment donné, il y a une scène où il amène sa nouvelle blonde chez ses parents. Puis, c'est la scène où j'ai compris qu'il était en relation avec une femme. Puis, je sais que ça ne devrait pas, là. Mais ça m'a vraiment brisé, dans le sens que ça m'a fait « OK, c'est pas mon histoire. Cette histoire-là n'est pas la mienne. » Puis, tout ce que j'ai lu après, ben, c'était toujours avec le « Ouais, mais moi, je l'ai pas vécu de même. Puis moi, ça s'est pas passé de même. Puis moi, puis il y a eu de la jalousie aussi qui a embarqué là-dessus, parce que moi, j'ai pas eu la chance de m'en sortir. Puis moi, je ne suis pas un transfuge de classe, dans le sens que j'étais encore dans la même classe. Puis j'ai beau être autodidacte, j'ai beau me cultiver par moi-même, puis j'ai beau être vouloir apprendre davantage tout le temps. J'ai pas eu la chance, moi, d'avoir cette éducation-là, puis de m'en sortir. Fait qu'il y avait un peu de jalousie aussi là-dedans, puis j'ai vraiment passé comme par plein d'émotions, le fun et pas le fun en même temps, dans le même livre. Fait que c'est ça. J'étais un peu ambivalent. Genre, j'avais très hâte d'en parler avec vous parce que c'est là que je me situe un peu. Puis comme je l'ai précisé, mais je tiens vraiment à que ce soit clair que, tu sais, je tiens pas, c'est pas quelque chose que je reproche à l'auteur. C'est son histoire à lui qui nous raconte. Puis c'est une histoire très personnelle. C'est écrit roman, mais chaque fois que le mot roman est écrit, il est suivi d'une parenthèse qui dit mettons. Donc, on n'est pas dans le roman, on est vraiment dans le récit. Puis, c'est bien correct, il a raconté les choses qu'il connaissait, son point de vue, sa vie. Mais c'est ça, j'ai vécu bien de la frustration.
Je comprends.
Bref, ouais, c'est ça. Il y a d'autres petits éléments dont j'avais envie de parler, mais est-ce qu'il y a une... La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a une scène en particulier qui vous a touché? Est-ce qu'il y a une scène en particulier dont vous vous souvenez particulièrement? Aucune?
Je réfléchis, laisse-moi réfléchir. Ah, oh, ben, moi, l'histoire de l'hôpital, le trauma face à l'enfant malade, là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Puis, tu sais, comme... Il y a déjà eu des cas vraiment comme très populaires de parents qui avaient des enjeux de santé mentale, tu sais, puis qui donnaient de la médication à leurs enfants et tout ça. Puis on dirait que comme, je sais pas trop, tout en lisant cette période-là, que tu sais, il a été surmédicamenté pendant toutes ces années-là, puis en lisant les rapports que ça disait qu'il n'y avait rien, mais que comme quand même le docteur donnait de la médication pour rendre les parents heureux ou tu sais comme pour
ouais.
On dirait que toute cette situation là ça m'a tellement mis mal à l'aise de pour lui tu sais de comme de se rendre compte qu'il a tout vécu ça mais qu'il n'y avait pas besoin de tout vivre ça puis que tu sais c'était pas un pauvre enfant fragile puis tu sais le syndrome aussi du sauveur des parents de comme hey, on l'a réchappé cet enfant là mais comme non, vous l'avez juste surmédicamenté, puis vous lui avez causé des traumas de croire qu'il était tout le temps malade, puis qu'il n'allait pas s'en sortir, puis que, tu sais, ça m'a vraiment bouleversé, ça. Mais, tu sais, j'ai comme une petite sensibilité pour les enfants, mais, mais comme toute la surmédicalisation aussi, puis, c'est sûr que comme, là, on revient quand même à l'époque, parler de santé mentale, c'était pas le sujet de l'heure, là, de classe bourgeoise ou classe pauvre, tu sais, on était pas là, là, tu sais, si t'étais bourgeois, au pire, tu t'en allais en ancien psychiatrique, puis on n'en parlait pas, tu sais, mais ouais, ça a été comme, j'aurais pas aimé vivre une épreuve comme ça, ça doit être vraiment bouleversant, puis tu sais, en tant qu'adulte, tu te dis comme, est-ce que je suis vraiment malade, là? Est-ce que j'ai besoin de prendre quelque chose, ou est-ce que tu peux développer plein de traumas puis de par rapport à ton identité, par rapport à ta... Est-ce que tu deviens hypochondriaque ou est-ce que tu deviens justement à dire que tu n'as jamais rien, mais que ça peut devenir super dangereux parce que tu te dis que tu n'es pas vraiment malade, tu sais? Il l'a effleuré quand même assez rapidement, puis pas nécessairement de sa perspective à lui, mais plus de la perspective de ses parents puis des documents puis tout ça que... qui a recueilli, mais je trouvais que c'est un passage quand même difficile.
Oui, oui. Puis ben, tu l'as dit, il a fait beaucoup de recherches et d'enquêtes pour ce livre-là. Il est retourné sur les lieux de certains endroits qu'il a vécu. Il a rediscuté avec des gens de son passé aussi. Puis ça donne lieu à quelques scènes assez particulières. À un moment donné, il se retrouve avec un ami d'enfance qui est comme hyper misogyne, homophobe et tout. Puis j'étais comme... Ça, c'est venu me rejoindre parce que... Ben, comme tu disais, Karine, je connais ces gens-là. Tu sais, je sais comment ils pensent, je sais comment ils sont, puis c'est plate, mais je les présente pas, ces gens-là. Tu sais, ben, en fait, je les ai juste perdus de vue, ces gens-là, parce que je peux pas. Moi, je me retrouve dans une drôle de situation. Je m'excuse, là, ça va être le podcast où je fais ma psychothérapie, mais. Moi, je me retrouve dans une drôle de situation où je ne suis pas nécessairement dans une autre classe, mais en même temps, les gens qui m'entourent le sont. Je suis comme, tu sais. Fait que quand je repense à ces gens-là, quand je repense à qui ils sont, à comment ils parlent, quand je repense à pourquoi je ne veux plus leur parler, ben c'est parce que je ne me vois pas les amener dans la vie que je mène aujourd'hui, tu sais. Puis, en même temps, dans un sens, je sais très bien que c'est pas de leur faute, mais d'un autre côté, je suis comme, mais apprends, regarde un peu. c'est frustrant en même temps, même si c'est pas de leur faute, même si je comprends que ça vient d'éducation, puis ça vient des parents, puis ça vient de génération. Tu sais, c'est des pensées qui ont été véhiculées d'une génération à l'autre. Je comprends tout ça, mais oh, c'est frustrant, surtout à un moment de l'histoire où l'accès à l'information est si facile. Mm-hmm. Mais bon, j'ai eu un petit moment aussi où ça m'a un peu frustré parce qu'il parle souvent de à l'âge adulte, là, le dernier tiers du livre, il parle vraiment de l'âge adulte, puis il parle de les habitudes qu'il a, qui le trahissent, qui trahissent le milieu duquel il vient. Puis j'étais comme, ça, j'ai pas aimé ça, lire ça, mais sur un autre niveau, parce que ça m'a rendu vraiment paranoïaque. Je me suis dit, mais je m'habille en pauvre, puis là, les gens, pas vrai, là. Puis tu sais, c'est vrai que je m'habille en pauvre parce que je me fais donner du linge, puis souvent, c'est du linge de genre Walmart, puis il y a pas de marque, puis tu sais, moi, je m'en sac, là. À un moment donné, j'étais tellement déprimé, j'ai failli t'envoyer un message vocal, Marc, pour te dire, je m'habille-tu en pauvre? Quand on te voit, là, j'ai-tu de l'air pauvre?
Mais il y a vraiment, tu sais, ça, j'ai beaucoup ressenti sa détresse, mais aussi comme il voit un énorme gouffre entre lui puis l'élite. Oui. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment, puis je sais pas comment dire, mais il continue à cogner le clou que ça existe des gens qui sont mieux et qui sont plus intelligents. Et tu sais, puis comme ça m'a vraiment mis à mal à l'aise parce que j'étais comme, ben moi non plus, il y a des choses que je sais pas, puis il y a personne sur la planète qui peut tout savoir, tu sais. Puis moi aussi, si tu me parles de quelque chose que je connais pas, je vais faire mm-hmm. Mais tu sais, c'est pas parce que je viens d'un milieu, c'est, tu sais, puis je comprends pourquoi lui le fait, mais tu sais, il y a toutes ces choses-là de comme, ben c'est parce qu'eux sont vraiment intelligents, tu sais, puis c'est parce qu'eux, ils ont, tu sais, je connais des gens qui sont super intelligents, qui sont pas nécessairement, tu sais, vous êtes des exemples de personnes qui ont voulu apprendre beaucoup par vous-même, je suis certaine que vous savez bien plus de choses que moi, tu sais, puis ça n'a pas nécessairement de lien avec, comme, notre monnaie, puis, tu sais, ce qu'on fait c'est ça, comme argent, année par année. Mais, fait que, tu sais, oui, vas-y.
J'ai l'impression que c'est plus un ressenti qu'autre chose.
Oui.
Tu sais, c'est pas objectif du tout, ça, là.
Non.
Ça, là, clairement, c'est ce qu'il ressent. Puis ça, personnellement, je le comprends un peu, parce que, tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons, quand je suis avec, tu sais, vous autres, on se voit, puis tout, je vais être vraiment moi-même, puis je vais parler comme je parle tout le temps, tu sais. Mais quand je suis, mettons, avec mes collègues, je me rends compte que je fais beaucoup de code switching. Parce que sinon, je le sais que, tu sais, sinon, c'est le parler que j'ai l'habitude d'utiliser qui va remonter, puis qu'ils vont me faire, tu sais, ça va avoir l'air bizarre. Genre, c'est pas professionnel, c'est pas adapté à la situation, tu sais. Puis oui, je m'en sors bien parce que je suis consciente de ça, mais des fois, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que si je me laisse trop aller, ben c'est naturel qu'il y ait un galop. Tu sais.
Ouais.
Il y a ça aussi qui joue. Puis en même temps, moi, ce que j'ai trouvé fun, c'est qu'il passe une bonne partie du livre, ça fait comme avoir un peu honte. de ses parents, puis de, tu sais, comment ils parlent. Fait que le moment où, tu sais, comme sans faire exprès, ils utilisent le mot que son père a inventé, puis tout le monde est comme, ah, c'est-tu amérindien, c'est quelque chose, puis il fait comme, wow, c'est poétique comment mon père parle.
Ouais, c'est
clair. Genre, j'avais trouvé beau ce moment-là.
Anish Kwadat, quelque chose de genre.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est vrai que c'est cute, ça. Il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, là, lorsqu'il parle, tu sais, par exemple, de bailler, tu sais, puis que lui, dans son milieu, comme tu bailles, puis la bouche grande ouverte, mais que, comme il s'est rendu compte que les codes, tu sais, c'était comme de mettre la main, puis de pas montrer. Mais la phrase qu'il dit après, c'est que, tu sais, c'est quelque chose comme, mais il y a pas de bonne ou de manière de bonne ou de mauvaise façon, il y a juste comme le contexte où est-ce que tu es. Puis j'étais comme, oui, mais c'est ça aussi que j'aurais aimé plus, tu sais, de comme, c'est pas... ça, c'est mauvais, puis ça, c'est bon. T'sais. Puis c'est pas nécessairement ça qu'il dit, mais on dirait que comme parfois, ça donne un petit peu cette impression-là de comme, tu sais, je suis passée de comme, tu sais, ça qui est pas la bonne chose. Puis... Fait que ça, j'ai trouvé que ça me réconciliait un petit peu avec tous les propos qui étaient dits avant de comme, c'est vrai qu'il y a pas de mauvaise, tu sais, c'est nous qui créons nos codes, puis de dire que ça, c'est poli, puis que, tu sais, de manger avec les ustensiles à l'extérieur, puis tu sais, comme... Les chiens, ils savent pas.
Les coudes, les coudes.
Tu sais, c'est comme... fait que ça, j'ai trouvé ça... Que c'était bien de le souligner, tu sais.
Ben en fait, moi, j'ai envie de ramener... C'est parce qu'on parlait d'intelligence puis d'éducation et tout ça. Moi, j'ai envie de ramener cette histoire-là que je vous ai sûrement déjà racontée, mais le copain de ma mère était coiffeur ou barbier, on disait. Dans le temps, puis il coupait les cheveux aux hommes, et puis il coiffait donc plein d'hommes tout le temps. Il a rencontré plein de gens de tous les milieux. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Sylvain, les gens qui ont énormément d'éducation, les avocats, les médecins, les politiciens, si tu les sors de leur domaine, ils ne sont pas plus intelligents que toi puis moi. J'avais trouvé ça tellement beau, puis j'ai travaillé beaucoup avec le public. J'ai eu l'occasion d'assister, d'être témoin de ça, et c'est vrai. C'est que, ultimement, les études, même si c'est vrai que c'est important, puis même si je jalouse les gens qui ont la chance d'avoir ce parcours-là, c'est vrai que ça te rend... connaissant dans un domaine vraiment spécifique, tu sais.
Ouais.
Donc après c'est de s'intéresser au monde autour de nous, puis ça, ben ça vient de soi, ça vient pas forcément des écoles. À un moment donné, Jean-Philippe Plot, il parle un peu contre le terme études supérieures. J'ai comme oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais tu voudrais dire quoi? Tu sais. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai que ça donne un statut, mais en même temps, je pense que peu importe le terme que tu choisirais pour remplacer celui-là, ce terme-là serait toujours vu comme supérieur au reste, tu sais. Enfin, je pense pas que changer le terme, ça réglerait le problème.
J'avoue, non. J'avais pas pensé à ça.
Ben, j'ai l'impression, en tout cas. Une autre petite idée que j'ai eue, puis là, j'ai vraiment l'air de chipoter, je l'ai aimé, le livre, là. Je trouve que c'est un livre vraiment important. C'est vraiment un livre important, puis je pense qu'on devrait tous le lire. Mais une autre chose à laquelle j'ai beaucoup pensé tout en lisant ce livre-là, c'est que Matt et moi, on vient juste de lire un livre d'un auteur qui n'est jamais cité, il me semble, dans Rue du Plessis, même si Jean-Philippe Plot nomme plein d'auteurs, des auteurs français, des auteurs québécois, des auteurs de jadis, des auteurs d'aujourd'hui, mais il y en a un qui n'est jamais nommé, et c'est Michel Tremblay. Et on vient juste de lire, même si c'est moi, Un ange cornu avec des ailes de tôle, et moi, je trouvais que les sujets qui étaient abordés étaient... Ben, c'est-à-dire que dans ce livre-là, Michel Tremblay ne va pas nécessairement parler de transfuge de classe, mais le passé, l'enfance, dans le milieu populaire, je trouvais que c'était vraiment bien exploité dans Un ange cornu avec des ailes de tôle, et ça m'a fait réaliser que oui, Rue du Plessis, c'est parce que moi, j'ai envie de dire que Rue du Plessis, c'est plus un essai qu'un roman, parce que si je le passe comme un roman, tu sais, oui, j'ai trouvé ça touchant, ce qui se passait avec les parents, puis les histoires, c'est ça. J'avais beaucoup d'empathie pour les parents de Jean-Philippe, mais j'avais de l'empathie pour eux parce que on me racontait des faits qui leur est arrivé. Donc, ce qui leur est arrivé, c'est triste, donc j'ai de la peine pour eux autres. Alors que Michel Tremblay, dans son écriture, c'est son écriture qui vient nous vraiment nous embarquer puis nous faire vivre l'espèce de pitié, quoi, que c'est pas le bon mot, là, mais l'espèce de mal-être ou la peine qu'on a pour ces personnages-là, c'est vraiment dans son écriture qu'il va venir le chercher. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on en a souvent parlé, là, de lire un livre avant l'autre. Des fois, ça influence nos idées. Puis, dans ce cas-ci, ça a un petit peu joué dans ma tête. J'étais comme, ah, mais Michel Tremblay, il écrivait tellement bien.
Mais tu sais, les belles-sœurs, tu sais, c'est d'écrire cette époque-là, puis avec beaucoup d'amour, puis, mais tu sais, de quand même expliquer qu'est-ce que c'était à l'époque. Tu sais, Michel Tremblay le fait depuis plusieurs années, on s'entend. Là.
Mais je pense que, tu sais, je veux dire, depuis les belles-sœurs, puis les belles-sœurs, c'est au début, dans ses débuts. Exact. Il a toujours été là-dedans, il a toujours été dans mettre la lumière sur ces gens-là, faire comprendre cette réalité-là. Puis ça a toujours été avec beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour pour ces personnages-là. D'ailleurs, si tu me parles sur les belles-sœurs, je suis allé voir le film, puis j'aurais bien des choses à dire là-dessus. Mais la chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on parle de ces personnes-là et quand on les met en scène, la ligne est mince entre démontrer leurs défauts avec amour et démontrer leurs défauts pour faire rire. Ouais. Puis je trouve que le film, malheureusement, pas tout le temps, mais je trouve que le film, il tombe un petit peu trop de l'autre côté. Ça arrive. Mm. C'est pas entièrement une farce, c'est pas entièrement de la comédie. Ben, c'est une comédie, une comédie là, mais c'est pas... Mm. C'est pas toujours raté, c'est ça que je veux dire. C'est pas toujours raté, mais des fois, je trouve qu'il tombe un peu du mauvais côté de la ligne, puis ça m'a vraiment, vraiment ennuyé, malheureusement. Mais là, ça, c'est une petite parenthèse sur le plus gros succès au box-office québécois depuis des années.
Ben oui, avec la trollée d'actrices là-dedans. Watch out, là! j'aurais aimé ça qu'on parle. J'aurais aimé ça justement qu'on parle de l'aspect essai. Tu sais, à plusieurs reprises, il dit que certains membres de sa famille étaient vraiment pas en accord avec ce livre-là. Puis, je vous avoue que j'ai eu un certain malaise à certains moments, dans le sens que comme tu sais, il s'appelle Jean-Philippe Plot. On parle de sa famille, c'est les vrais noms. Jusqu'à preuve du contraire, des moments qui ne sont pas reluisants nécessairement pour ces personnes-là. Puis, tu sais, j'étais comme, moi, si c'était de moi que ce livre-là parlait, je n'ai rien demandé, je ferais pas vraiment de bonne humeur, moi non plus, je pense. Tu sais, comme, je comprends pourquoi c'est fait, mais tu sais, c'est de lui qui parle, mais c'est beaucoup des autres aussi qui parlent, des vraies personnes. Fait que je trouvais que c'est un ouvrage courageux, mais je trouvais ça tough pour ceux qui sont à l'intérieur de ce livre-là.
Moi, c'est parce que ça commence dans le premier chapitre, en fait, c'est la mère de Jean-Philippe qui dit « Ah, on est tellement à avoir vécu ça, il faudrait en parler, puis tout ça. » Puis elle, de ce que j'ai compris, les parents ont l'air bien d'accord avec ça, là, avec l'écriture de ce livre-là. Mais y a-tu l'accord de ses amis d'enfance? Puis l'image qui fait d'eux, y a-tu... Puis ces noms-là sont peut-être changés, là. Peut-être. Mais ils se reconnaissent, là. Ils savent qui ils sont, là. Puis ensuite, la famille... Moi, j'avais pas le souvenir qu'il parlait énormément des autres membres, tu sais, de sa famille élargie, sauf pour dire qu'il voulait vraiment pas être dans ce livre-là, puis puis il allait faire des poursuites possiblement, puis tu sais, fait que je suis comme, mais si c'est juste ça que tu as à dire sur ces gens-là, pourquoi t'en parles? D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, là, mais je l'aurais raccourci, moi, ce livre-là. Je n'aurais enlevé une couple d'anecdotes, là, à un moment donné, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est ça. Ça, c'est, tu sais, cette histoire-là, quand tu sais qu'il y a des gens qui veulent absolument pas que tu écrives ce livre-là, je pense que tu peux l'écrire quand même parce que c'est ta vie et tu as le droit de parler de toi-même dans un livre, mais tu peux... C'est parce que la seule anecdote dont je me souviens par rapport à eux autres, c'est justement qu'ils ne voulaient pas être dans le livre. Fait que, tu sais, je comprends pas leur présence. Je comprends pas pourquoi cette anecdote-là était importante à mettre dans ce livre-là. Si ces gens-là, qu'ils ne veulent pas blesser, s'il y avait quelque chose contre ces gens-là, s'il y avait quelque chose à régler avec ces gens-là, limite, j'aurais aussi pu comprendre. Mais là, ils cherchent. Il n'a pas l'air de chercher à les blesser. Il a juste l'air de vouloir raconter ça. Puis je comprends pas trop pourquoi. Mais bon. C'est une petite aparté. Là, je vais faire ce que j'ai été vraiment pas bon pour faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dire bonjour aux gens. Alors, Steph dit bonsoir, bonsoir. Isabelle Parent dit bonsoir. Et elle nous dit, j'avais beaucoup aimé Les Belles-Sœurs au théâtre et Albertine en 5 temps, aussi en théâtre. Et elle dit, j'ai pas lu Jean-Philippe Plot, mais je crois qu'il est le digne héritier de Serge Bouchard pour les essais. Bien, ils ont fait de la radio ensemble. Oui, ça, il en parle beaucoup d'ailleurs dans son livre de Serge Bouchard. Honteusement, je le sais, je l'ai jamais lu. j'ai jamais lu Serge Bouchard. Peut-être un jour, là, mais c'est ça. Bref. Est-ce que vous aviez d'autres scènes à discuter, d'autres... exemples qui vous ont touché, fâché? Non, on va passer peut-être au prochain. Ben, en fait, moi, la seule chose que je veux... Je te reviens, Matt, j'ai vu ton petit doigt. Mais la seule chose que je veux dire, c'est qu'il nous laisse un peu sur un suspense dont on n'aura jamais la fin parce qu'il nous dit est-ce qu'il était vraiment triste que ses parents n'aient pas été au lancement de son livre précédent. Puis là, il dit, oh, mais j'espère qu'ils vont venir, j'aimerais ça qu'ils soient là, tout ça. Mais on n'a pas la réponse de cette affaire-là. Là. Puis ça me gosse, là. Ça, moi les fins ouvertes, je suis correct avec ça, mais il y a certaines choses là, que je veux savoir. Puis ça, c'est une intrigue, je veux connaître.
Ça, c'est émotif, là. Est-ce que les parents vont être là?
Parce que ça serait tellement beau, je trouve, s'ils étaient là. Mais en même temps, ça pourrait être très dramatique aussi, là. Donc, oui. Mais qu'est-ce que tu voulais dire?
Il y avait ce petit segment à la page 206 qui dit « Nous sommes tous et toutes les produits de nos sociétés, voire des assistés sociaux, n'en déplaise à ceux et celles qui se réclament de cette farce selon laquelle il ou elle se serait fait tout seul. » Peux-tu vous entendre là-dessus?
Ben, c'est parce que moi, j'ai envie de dire que je me suis fait tout seul autour de ce que la... Tu sais, autour de des circonstances de ma naissance, on va dire, autour des circonstances de mon enfance. Tu sais, il y a un gros bout que j'ai fait tout seul, là. C'est ce que je veux dire. Mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. On peut pas vraiment nier ou effacer nos origines, je pense pas.
Mais je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est la raison pour laquelle je suis traductrice aujourd'hui. C'est parce que comme au moment où j'en avais besoin, mes parents avaient les moyens de payer pour retourner à l'université. Puis ma grand-mère est morte à ce moment-là, puis elle a laissé un très bel héritage. Fait que mon père a décidé que le prêt qu'il me faisait, ça allait devenir un don. Fait que je suis dans une situation très avantageuse à cause de ça. Je pense que c'est plus à ça qu'il fait référence en fait quand il dit ça.
Ouais.
C'est pas se reconstruire soi-même par intellectuellement ou comme ça. C'est vraiment le fait que tu sais comme j'ai bâti ma propre entreprise. Mais hey, j'avais genre 30 000 $ en banque parce que j'ai rien eu à payer depuis que genre je suis au comme 3 pommes, puis j'ai commencé à investir de l'argent quand j'avais 18 ans. C'est pas la même réalité que quelqu'un qui doit travailler dans un McDo à partir du moment où il a 16 ans parce que c'est comme ses parents ne font pas payer toutes dépenses. Tu sais. C'est comme on part pas de la même place.
C'est vrai. Pour
quelqu'un qui est né avec de l'argent, pour qui c'est juste une réalité, c'est facile de dire « Ah, j'ai tout bâti moi-même. » Ouais, t'avais un filet de sécurité. T'avais un filet de sécurité gros comme la terre pour te retenir si jamais tu te plantais. T'avais aucune chance de te planter pour de vrai, là, parce que tu le savais que tes parents étaient là.
Ouais.
Alors qu'il y a des gens que, tu sais, ils peuvent pas se permettre de se lancer dans le vide parce qu'ils voient déjà le mur qui s'en vient.
C'est vrai.
Je l'ai vraiment vu de perspective. Tu sais, j'ai connu des gens qui sont partis d'un milieu, tu sais, puis que, tu sais, je pensais pas du tout là, à quelqu'un qui a fait un succès puis qui avait déjà là, 20 000 piastres en banque. Je pensais vraiment à des gens qui sortent de ces milieux-là, qui sont un peu comme l'exception à la règle, tu sais. Puis on dirait que comme j'ai pas aimé le mot farce parce que j'étais comme il y en a qui ont des parcours qui sortent de des milieux violents, des milieux, tu sais, vraiment complexes, puis que tu peux pas vraiment attribuer ça à grand chose d'autre que comme à ces personnes-là, tu sais, qui ont arrêté les cycles de violence, qui ont arrêté, tu sais, qui sont pas rentrés dans la boisson, peu importe, tu sais. Comme c'est sûr que ça a beaucoup d'influence, puis on est une certaine portion ce que notre milieu est, mais tu sais, je pensais vraiment à ces gens-là qui sont sortis, puis que comme je trouve ça dur d'attribuer ça à autre chose qu'à eux, tu sais. C'est sûr qu'il y a eu des circonstances peut-être favorables, mais comme dans une même famille, parfois, tu sais, d'un même milieu, ben c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, puis c'est pas tout le monde qui va avoir la résilience ou comme les aptitudes pour s'en sortir. Fait que tu sais, on dirait que c'était comme ça, ça est vraiment venu me chercher de, tu sais, je connais des enfants de famille vraiment tough, puis ben ils réagissent pas tous de la même façon, puis ils ont pas tout, puis ils partent tous de la même base, mais tu sais, fait qu'on dirait que ça.
Mais je pense que c'est plus reconnaître que ces enfants-là dont tu parles, c'est des exceptions. Que la société n'est pas bâtie pour qu'ils puissent s'en sortir.
Non, effectivement.
Que la société n'est pas bâtie pour qu'ils puissent monter d'une coche puis avoir un meilleur niveau de vie que leurs parents.
Effectivement. Ça, c'est sûr. C'est clairement des exceptions. Mais c'est pour ça que j'ai pas aimé la formulation parce que je comprends que globalement, c'est pas ça qui se passe, mais enlève pas le fait que comme il y a des humains extraordinaires, tu sais, sur ce. T'sais, peu importe. En tout cas, ça. C'est ça. Ma dernière intervention.
Mais faut aussi se rappeler que c'est comme oui, c'est possible de s'en sortir par soi-même ou de progresser par soi-même. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile.
Ben oui.
Je pense que c'est plus pour ça qu'ils en parlent, comme, tu sais, les efforts qu'il faut que tu fasses. Puis, tu sais, comme les gens qui se rendent, il en parle un peu dans le livre, la différence entre lui qui étudiait à l'université en même temps qu'il travaillait à temps plein. Dans un monde où tu te fais répéter sans cesse que pour 15 heures à des cours à l'université, il faut que tu mettes 30 heures d'études.
Ouais.
Puis tu travailles à temps plein.
Ouais.
C'est comme, c'est
non, c'est ça.
Moi, je comprends ce que vous dites. Moi, je le remets vraiment plus de ce point-là, de ce point de vue-là, dans le sens que oui, c'est possible de se bâtir soi-même, mais le monde n'est pas bâti comme ça. Il n'est pas bâti pour que tu puisses le faire. Puis c'est beaucoup plus difficile aussi de réussir à le faire si tu n'as pas déjà de cette sécurité en arrière pour t'aider, tu sais.
Complètement.
Non, tu amènes vraiment un très bon point. Puis c'est vrai maintenant que, tu sais, maintenant que je pense à ça. Et, j'ai envie de donner l'exemple de moi. Mes parents auraient pu me permettre d'avoir des études plus intéressantes, mais moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'était des arts. Ça, c'est un domaine que tu n'investis pas. Quand tu es une famille pauvre, tu ne vas pas investir dans des arts. Tu ne vas pas investir un bac en création littéraire. Là. Mm-hmm. Tu vas investir dans quelque chose qui va te donner une job au bout.
Prof, avocat, infirmier.
C'est ça. Puis pas médecin parce que c'est bien trop long, puis pas psychologue parce que c'est bien trop d'années d'études, puis ça coûte bien trop cher. Mais non. Tu sais, c'est ça. Fait que, il y a effectivement cet aspect-là aussi, mais, ouais. Mais tu as bien raison, Kevin. Moi, je continue de dire que c'est un livre important. Je suis bien content, en fait. Je suis bien content que ce soit un best-seller parce que je me dis que cette, au moins cette histoire-là va se retrouver dans beaucoup de mains, va se retrouver... elle a été lue, elle a été comprise par vraiment beaucoup de gens. Donc, j'ai envie de dire que c'est une pierre, c'est une brique dans la maison idéale qu'on essaie de construire. Mais c'est ça. Maintenant, est-ce que ça va changer des choses? J'en ai aucune idée. L'avenir nous dira. si vous n'avez rien d'autre à dire sur ce livre, on va pouvoir passer aux recommandations, aux suggestions culturelles. Qu'est-ce que vous avez dit? Tiens, je vais commencer avec toi, Maps. Qu'est-ce que tu as à nous recommander?
C'est vraiment triste que ça soit aujourd'hui notre podcast parce que demain, je vais voir Pub Royal. J'aurais pu en parler. Je vais vous recommander un petit livre audio. C'est très rare que j'écoute des livres audio, mais je suis allée faire un petit tour à Montréal, une fois de fin de semaine. Puis, j'ai écouté Prendre son souffle de Geneviève Janelle. Je dois vous avouer, entre vous et moi, que la couverture, je la hais. Puis, je comprends le lien, mais comme... Il y a d'autres moyens de parler de prendre son souffle que quelqu'un sur un plongeon, tu sais, comme ça n'a pas de lien avec l'histoire, l'image, tu sais, comme le sens, oui, mais pas l'image. Donc, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Anaïs et qui va tomber en amour avec un gars. Classique, typique. Mais en fait, on comprendra pas tout de suite. Il est bien intense, il vit comme si... demain, c'était sa dernière journée, tu sais. Il y a vraiment comme une intensité à leur amour, puis il va avoir une chute assez brutale. Donc, c'est pas vraiment un divulgateur, mais j'aime pas ça en dire trop. je suis embarquée dans ce livre-là, puis tout le monde était comme, vous allez broyer votre vie, c'est triste, c'est dur. Puis, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'intelligence de cette autrice-là. Tu sais, il y a beaucoup de clichés, mais c'est tellement assumé que comme ça en devient vraiment drôle. Puis, ben forcément, il y a des sujets très difficiles et je trouve que c'est abordé de plusieurs aspects, de plusieurs façons. On prend vraiment en considération les personnes qui sont victimes de cette situation-là, les personnes qui sont aussi des conjoints, des dommages collatéraux de tout ça et des différentes façons qu'on peut vivre des deuils, les différentes façons qu'on peut traverser des épreuves différentes. Donc, tu sais, c'est pas un sujet super novateur. Entre vous et moi, si vous avez lu Me After You, vous avez, c'est ça? Me Before You. En tout cas, vous savez un petit peu où est-ce que ça s'en va, ish. Mais je trouve qu'il y a quand même des réflexions plus loin, puis beaucoup de sensibilité, beaucoup de nuances que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre-là. Est-ce que j'ai broyé ma vie? Non, mais je comprends comme la charge affective que ça peut amener. J'ai senti les moments que j'étais comme, ah, ça, c'est un moment de braillage, tu sais. Fait que, si vous sentez une petite journée de pluie, là, comme ça, là, une petite journée grise, ça se lit assez rapidement. Voilà ma suggestion.
Ben, merci beaucoup. Ça me donne très envie. Puis, moi, c'est le contraire. Moi, lire un livre triste à la pluie, ça me tue. Moi, je préférerais de loin lire un livre triste au soleil.
Au moins, il y a quelque chose. Tu fais pas de Mario
Pelchat? Non, je ne pleure pas dans la pluie, mais. Mais je peux pleurer dans la nuit. Ça, c'est un sacrifice que je peux faire. Karine, toi, c'est quoi?
Alors, moi, je vous suggère un documentaire qui est sur ici-tout.tv. C'est pas sur l'extra, donc c'est une gratuitement. Ça s'appelle La purge LGBT. Et ça parle, ben justement, des maudits de la purge LGBT qui est, dans le fond, quelque chose qui s'est passé dans les années 70 et 80. Genre, fin 60, 70, 80, peut-être début des années 90, dans l'armée canadienne, dans la GRC et au gouvernement canadien. C'est-à-dire que tu as les personnes LGBT perdaient leur emploi, étaient accusées d'espionnage, vivaient des affaires absolument atroces dans le contexte de la guerre froide et tout ça. Et dans le fond, c'est qu'il y a eu un recours collectif pour les personnes qui avaient vécu ça dans les Forces armées canadiennes. Et le documentaire, nous montre le journaliste qui a fait égaliser cette histoire-là au grand jour, l'avocat principal du recours collectif et trois anciens soldats qui faisaient partie du recours collectif, donc un homme, deux femmes qui étaient dans l'armée. C'est super intéressant. C'est vraiment rough, honnêtement. Il faut être prêt parce que quand les trois anciens soldats parlent de ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment très, très, très difficile. C'est vraiment cru, c'est vraiment difficile. Il y a une des femmes, par exemple, qui parle du viol correctif qu'un de ses officiers lui a fait subir. Fait que c'est tough. Il faut comme faut. Elle va pas dans le détail, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est vraiment cru, c'est vraiment difficile. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment super intéressant parce que ça parle d'une réalité qu'on connaît pas, qu'on n'a pas entendu parler. Genre, il y a eu une excuse de Justin Trudeau, je pense, en 2017 ou 2019, quelque chose quand même, mais c'est tout, là, tu sais, c'est comme... Moi, je sais que ça existe parce que, tu sais, comme, j'ai traduit des documents qui ont rapport avec ça, tu sais, mais sinon... Sinon, c'est pas que ça existe. Fait que je trouve que c'est quelque chose de super, qui est vraiment intéressant. Puis c'est des choses qui méritent qu'on les sache. Ça fait partie de notre histoire, qu'on l'a eu pas.
Ouais.
Puis le documentaire, comment bien fait, c'est genre une heure à peu près. Là, c'est comme.
Ok. C'est pas une série de documentaires.
Non, c'est vraiment. Tu sais, les documentaires qu'ils font à RDI, des fois, c'est genre un grand reportage, une heure à peu près.
C'est bon. Je pense qu'une heure, je serais capable de passer au travail. Ben, merci beaucoup, Karine. Moi aussi, je vais vous faire pleurer. C'est le thème de la soirée, je pense. Mm-hmm. Mais avant, je vais vous parler d'un film. Mais avant de vous parler d'un film, je veux, par la bande, vous recommander la plateforme sur laquelle je l'ai vu. Ça s'appelle Tubi. C'est gratis. Ça s'appelle, c'est ça, T-U-B-I, c'est gratis. Ça, tout le monde peut y aller. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner pour regarder les films. En fait, eux, ils se paient en diffusant des publicités. Donc oui, les films sont coupés par des publicités, mais c'est entièrement gratuit. Vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Par contre, si vous en avez un, ben vous pouvez reprendre le visionnement où est-ce que vous étiez rendu. Puis, c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de films de tous les genres. Il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, plus je navigue sur ce site-là, plus je me rends compte que c'est les films qui étaient avant sur d'autres plateformes, genre Netflix et compagnie, mais leur temps a... ils ont fait leur temps, puis finalement, ils ont été repêchés par Tubi. Mais c'est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, du moderne, du plus vieux, énormément de films LGBT, énormément de toutes sortes de choses. Bref, entre autres, il y a l'adaptation cinématographique du livre « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson. Mm-hmm. Et ça, moi, j'ai lu ce livre-là l'année dernière. Je suis complètement tombé en amour avec l'écriture de Philippe Besson. J'en ai lu 5 depuis. J'en ai d'autres à la maison que j'attends de lire éventuellement. C'est un auteur que j'aime énormément. Et j'ai vraiment eu... la belle surprise de voir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le livre, c'est 5 étoiles, c'est parfait, je n'enlève rien. Mais j'ai vu la belle surprise de voir que l'adaptation cinématographique a été non seulement bien faite, mais ça a vraiment été respectueux du livre, tout en amenant le livre, en l'adaptant en vraiment pour la forme cinématographique. Il y a beaucoup de choses qui se permet et qui fait... dans sa réalisation. Malheureusement, j'ai le nom du réalisateur m'échappe. Je peux-tu le trouver? Olivier Perron. Et c'est ça. C'est un excellent film. C'est beau. Et moi, qui ai un petit cœur de pierre et qui avait déjà lu le livre, qui savait où ça s'en allait, les 20 dernières minutes, je les ai passées à pleurer à chaudes larmes. Et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent au cinéma. Mais c'est beau, c'est touchant. C'est ultimement comment un premier amour peut vraiment nous marquer à vie. Et c'est beau. C'est un très beau film. Puis c'est gratis. Vous n'avez aucune raison de ne pas aller le voir. Donc, en tout cas, au Canada, là, à l'extérieur du Canada, je ne peux pas le promettre. Mais au Canada, c'est gratuit et c'est disponible. Un autre un dernier petit commentaire là, que je veux faire parce que tu me l'as rappelé, Maps, en parlant de la couverture de Prendre son souffle. En fait, on a eu un problème avec, je ne sais pas, Rue du Plessis, là, je ne sais pas si c'est la maison d'édition qui a mal fait son choix ou dans la réimpression, ça s'est fait rapidement, mais la copie que j'avais est la majorité des copies en librairie commençait à peler. Donc, la couverture commençait à peler. Moi, je veux vous dire, si vous l'avez à la maison, puis ça pèle, puis ça vous énerve, le fait comme moi, enlevez-le, le plastique. Il est beau en dessous, le livre. Il reste beau. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Même juste en l'ayant reçu, en sortant de la boîte, les coins commencent à peler un peu. Mais c'est comme une pellicule de plastique. Dans le fond, je me demande si c'était même pas juste pour le protéger, si ça faisait vraiment partie de la couverture. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Si vous l'avez à la maison, permettez-vous de le faire. Votre livre sera très beau, je vous le promets. c'est vraiment purement... Mais ça, bref, je veux terminer en vous disant que le mois prochain, on va lire Exa de Gabriel Filto-Shiba. Ça, c'est une recommandation de toi, Maps, et j'espère bien que tu seras là pour en discuter. Karine, tu seras peut-être là aussi. On va se retrouver donc pour en discuter à la fin du mois d'août. Ça va être un peu notre livre de fin d'été, un peu.
Back donc, to school.
Oui, c'est ça. Ça va être le temps de dire adieu au bon temps. Mais bref, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai beaucoup aimé notre conversation sur Rue du Plessis. J'étais bien content de vous avoir avec moi. Et vous qui nous écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.